Chapitre 2e. Il eut fallu à Hélène quelques heures de repos et de recueillement, dans lesquelles elle eût pu s'abandonner et pleurer à son aise, car ses larmes, toujours refoulées, l'étouffaient. Elle marchait, elle agissait, elle parlait, depuis 2 jours, comme dans un cauchemar dont elle ne pouvait s'éveiller, oppressée, anxieuse, suffoquée, incapable d'étreindre sa volonté, en proie à une sorte de délire avec des idées, des images qui l'affolaient ou l'anéantissaient. Mais justement, elle ne pouvait pas aller trouver ses heures de recueillement, car il lui fallait répondre à tout le monde et s'occuper de tout, décider tout, elle qui n'avait été rien jusqu'à ce jour. Et ce n'était pas seulement le présent qu'elle devait ainsi décider à l'improviste, c'était encore l'avenir. Ce n'était pas seulement ce qu'elle connaissait, mais encore ce qu'elle ignorait. Quelles affaires laissait son père? Quelle situation? Elle ne le savait pas. La ruine? Des dettes? La ruine, ce n'était rien, mais des dettes. Comment les paierait-elle jamais? Et cependant, elle était bien résolue, pour l'honneur de son père, à les payer coûte que coûte. « Je ne te laisse rien, » lui avait dit son père. Mais encore, quel était ce rien? C'était ce qu'elle devait savoir au plus tôt, et même eût-il fallu qu'elle le sût avant l'enterrement, car en discutant les dispositions de cet enterrement avec les gens des pompes funèbres et de la fabrique, qui, pour chaque chose proposée par eux, lui disaient « Cela se fait, mademoiselle », avait-elle hésité avant de répondre « Faites », se demandant comment elle paierait ce qu'elle commandait. Le notaire Griolet lui avait dit qu'il viendrait après l'enterrement, et elle l'attendait. Sans doute il ne lui ferait pas trouver ce qui n'existait pas, mais il la dirigerait, il prendrait en main ses affaires, et ce serait déjà un point important, au moins elle saurait. Il fut exact, car l'exactitude et la tenue étaient ses deux principales qualités. Pour l'enterrement, il avait revêtu une toilette noire, mais aussitôt rentré chez lui, il avait abandonné ses vêtements de cérémonie du parfait notaire, dont il avait horreur, pour reprendre son costume ordinaire, la redingote bleue boutonnée, la cravate de couleur et le pantalon de fantaisie. Ce jour-là, il le prit tout neuf et le choisit avec soin, ce pantalon. Il allait voir une belle fille et il tenait à paraître devant elle tout à son avantage. Or, pour cela, un pantalon réussi était, disait-il, en s'appuyant sur certains souvenirs qu'il citait complaisamment, un point décisif. Aussi était-il célèbre à Condé les pantalons de Maître Griolet, au moins parmi les hommes, qui s'en moquaient et se mettaient dans des coins pour en plaisanter à mi-voix lorsqu'il arrivait quelque part. « Avez-vous vu le pantalon de Griolet ? Extraordinaire !»« Pour qui, celui-là ? » Et l'on cherchait. Si une femme avait le malheur de tourner les yeux du côté du notaire, machinalement, par hasard, sans penser à rien, elle était aussitôt le sujet de railleries plus ou moins spirituelles, moins salées. Auriez-vous cru cela? Non, et cependant, en regardant le mari, tout s'explique. Curiosité alors? Espérons-le, mon Dieu. Je plains le mari. Moi, Griolet, vous savez, c'est un blagueur. Ah bah, positivement. Il se présenta au collège en vainqueur, ne s'imaginant pas que cette belle fille pour laquelle il se dérangeait pût avoir des yeux pour ne pas le voir, et ne se disant pas que ses yeux ne devaient que pleurer. Au moins cette suffisance eut cela de bon qu'elle lui inspira une patience pour tout écouter et une complaisance pour tout examiner, qu'il n'eût assurément point eu pour une pauvre orpheline louche ou bossue. Hélène n'en avait jamais assez dit, et au lieu de s'impatienter des explications confuses qu'elle lui donnait, il les lui faisait longuement répéter. « Certainement, mademoiselle. » À la vérité, il était surpris que ses beaux yeux, dans lesquels il plongeait les siens, eussent si peu d'expression et parussent si éteints. Mais au moins, la musique de sa voix était un charme. Charmante aussi étaient ses lèvres et les mèches de sa blonde chevelure se détachant sur ses vêtements de deuil. Admirable était le profil droit de son visage, merveilleux de pureté était le contour de sa tête, et les épaules, et le corsage, et la taille, et les mains, et les pieds. Il serait resté toute la journée à l'écouter, à condition de pouvoir la regarder. Elle était touchée de cette patience, de cette complaisance à se mettre à sa disposition, mais en même temps elle était gênée aussi de cette persistance à la regarder. Ne pouvait-il pas lui parler sans tenir ainsi ses yeux attachés sur elle? Tout d'abord absorbée par ses pensées, en proie à son angoisse, abîmée dans sa douleur, elle n'avait point fait attention à la fixité de ce regard qui ne la quittait pas. Mais peu à peu, Elle s'était troublée, sans qu'elle comprît pourquoi. Un sentiment de malaise l'avait envahie, de confusion, de honte. Ses yeux qu'elle rencontrait sans cesse posés sur elle, tantôt sur ses cheveux, tantôt sur sa bouche, tantôt sur son corsage, la paralysaient. Elle eût voulu pouvoir abaisser un voile sur son visage, ou bien s'envelopper de la tête aux pieds dans un manteau. Ce n'était point ainsi qu'un honnête homme regardait une honnête femme, avec cette ardeur, comme s'il voulait la déshabiller. Griolet n'avait pas été sans remarquer l'effet qu'il produisait, mais il n'en avait pas deviné la cause. Pourquoi lui avait-elle parlé tout d'abord si franchement, si librement, n'ayant d'autre souci que de dire ce qu'elle avait à dire? Et maintenant, pourquoi se montrait-elle si embarrassée, comme fâchée? Cela était inexplicable, car enfin, on ne pouvait pas montrer plus d'amabilité qu'il n'en déployait pour elle. Elle devait bien voir qu'il la trouvait charmante, plus que charmante, irrésistible. Y avait-il donc en lui quelque chose qui lui déplut? C'était invraisemblable, car lui aussi était charmant. Plus que charmant, irrésistible, il le savait. On le lui avait dit assez souvent, et assez souvent aussi, on le lui avait prouvé, pour qu'il n'eût pas le plus léger doute à ce sujet. Déplaire à une femme, lui, allons donc, cela était impossible. Assurément, il avait dû lâcher quelque maladresse, quelques paroles inconsidérées, quelques blâmes sur son père, qu'elle paraissait regretter si sincèrement. Mais il eut beau chercher, il ne trouva ni cette maladresse, ce qui l'eût bien étonné, ni cette parole de blâme. Alors, comme il réfléchissait ainsi, ses yeux vinrent par hasard, ou plutôt par suite d'une habitude prise, à tomber sur son pantalon. Ce fut un trait de lumière. Certainement, il était très joli, ce pantalon, très moelleux d'étoffe, et ce qui était plus important, il laissait deviner ses mollets nerveux tandis qu'il moulait ses cuisses charnues. Malheureusement, il était pointillé de rouge, et c'était ce rouge qui la blessait. Ça avait été une maladresse. À lui de quitter ses vêtements noirs du matin, il eût dû venir en noir pour être en harmonie avec elle. L'harmonie, l'accord, tout est là. C'était pour avoir oublié cette loi qu'il n'avait point produit l'effet auquel il était habitué. Elle avait eu les yeux attirés par ce pointillé rouge. Cela l'avait distraite, d'abord, puis troublée, puis agacée. Elle n'avait plus été sensible qu'à cela, et d'autant plus que ce contresens jurait grossièrement avec la sympathie qu'il lui témoignait. Hélène, qui tout d'abord avait étendu l'entretien en entrant dans tous les détails qu'elle croyait pouvoir être utiles, l'avait abrégé comme elle avait cru comprendre la nature du sentiment qui animait ses regards, et tout de suite, elle était arrivée à la conclusion. Alors, que me conseillez-vous? Avait-elle demandé. De conseils, je ne peux pas vous en donner en ce moment. Il me faut avant voir clair dans la succession quelles sont ses forces, quelles sont ses charges. C'est ce que l'inventaire dira. Et nous y procéderons aussitôt que les délais imposés par la loi seront écoulés, c'est-à-dire dans 3 jours. Soyez sûr que je n'y mettrai aucun retard. J'ai trop à cœur de vous témoigner la vive sympathie que vous m'inspirez. Puis, nous nous hâterons aussi d'obtenir du conseil de famille votre émancipation. Et alors, mais alors seulement, c'est-à-dire après certains délais qu'il faut subir, vous verrez ce qu'est votre situation et le parti que vous devez prendre. Ce parti est arrêté à l'avance, car à l'avance je sais, parce que m'a dit mon pauvre père, que cette succession ne me donnera rien. Tout ce que je demande, c'est qu'elle me permette de payer ce qui est dû. Si elle était insuffisante, je demanderai aux créanciers de m'accorder un certain temps afin de pouvoir gagner ce que je leur devrais. Mais il y a le bénéfice d'inventaire. Et qu'est-ce que le bénéfice d'inventaire? Une disposition de la loi qui donne à l'héritier l'avantage de n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence des biens qu'il a recueillis, et même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers. Jamais je ne ferai cela. Les dettes de mon père seront sacrées pour moi, comme elles l'auraient été pour lui. Je les paierai comme il les aurait payées lui-même. Et comment, mademoiselle? En travaillant. Mon père, Dieu merci, ne m'avait pas élevé pour ne pouvoir rien faire, j'ai un métier aux mains. Je puis être institutrice ou maîtresse d'école, je le serai. Le notaire secoua la tête. Cela n'est guère digne d'une personne aussi distinguée, aussi jolie, aussi belle que vous. En quoi donc, monsieur? Je veux dire qu'institutrice dans une pension, dans une famille, est un dur esclavage, et que maîtresse d'école dans un village perdu est un exil qui ne peut être que pénible, très pénible pour une personne telle que vous, habituée à la vie intelligente des villes. Je vous parlais tout à l'heure de la vive sympathie que vous m'inspirez. Laissez-moi vous prouver que ce ne sont point paroles vaines dans ma bouche. Je ne sais ce que sera la succession de monsieur votre père, et j'espère qu'elle ne sera pas ce que vous craignez. Mais enfin, si elle était telle, je pourrais, au cas où vous voudriez travailler, vous offrir les moyens de ne pas quitter cette ville. Vous devez avoir une belle écriture. En tout cas, vous vous en feriez une facilement, j'en suis convaincu. Alors, je pourrais vous donner chez vous des expéditions, autrement dit des copies, qui vous permettraient de gagner 5 ou 6 francs par jour. Ainsi, vous serez épargné l'exil au village par un travail facile et discret, car je pourrais moi-même vous l'apporter. » Hélène resta un moment embarrassée et confuse, mais enfin elle se leva. « Je vous remercie comme je le dois, mais l'exil au village n'est point pénible pour moi, car je vivrai là avec ma grand-mère, qui est de la campagne et qui a besoin de vivre à la campagne. J'ai été trop loin et surtout trop vite, » se dit le notaire. Et sans insister, il se leva à son tour pour se retirer. Traversant la cour, il se baissa plusieurs fois pour regarder son pantalon qui tombait gracieusement sur ses bottines. « Fichu pantalon, » se dit-il, « et cependant il me va très bien. »